Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci de retour avec nous pour un nouvel épisode.
Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et nous, on est au rendez-vous à chaque semaine sur Instagram à Crime et Cocktail Podcast. Crime avec un S et E-T Cocktail avec un S Podcast. Eh bien, écoutez, vous le savez, slidez dans nos DM, s'il vous plaît!
S'il vous plaît, puis tant qu'à être là aussi, laissez-nous des commentaires sur nos publications. On aime ça échanger avec vous dans les commentaires. Puis, surtout, allez nous donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, peu importe la plateforme où vous nous écoutez. Vous n'avez aucune idée comment ça nous aide.
Je viens de me faire griffer par mon chat. Il vient juste de me planter ses griffes dans le genou. J'ai la difficulté à pas crier dans le micro, pardon.
T'as été très professionnel parce qu'il a vraiment plongé ses griffes. Il le fait encore. Il plonge ses griffes dans le genou à Jess. On parle de Léo, évidemment, la mascotte.
Je sais pas pourquoi les chats font ça comme... Ils nous aiment tellement qu'ils nous griffent puis nous mordent. C'est comme la théorie que t'avais dit l'autre jour. Ça doit être parce qu'ils me trouvent tellement cute qu'ils deviennent agressifs.
J'aime penser que c'est ça, oui.
Bref, donc j'ai un chat d'agrippé après mon genou pendant que je vous parle. Je pense que ça va être ça. Ça va être ça mon moment what the fuck. J'ai un chat de genou pendant l'épisode. Toi, non, c'est quoi ton moment what the fuck?
Comme d'habitude, je suis revenue à ma petite vie tranquille, qui se passe pas grand-chose. J'ai eu un moment what the fuck assez intense cette année, c'est tout. Mais bon, bref, j'ai entamé une nouvelle relation, c'est ça que j'ai à dire. c'est tout. Oh oui, je voulais dire aussi les filles qui sont avec des hommes. The bar is on the floor, puis si un gars veut, il peut, il va le faire. Fait que arrêtez d'accepter de vous faire traiter moins que ce que vous valez. Le gars qui va vouloir être avec vous, il va vous le démontrer à 100%.
Puis c'est la même chose pour la fille ou la personne, en fait. Si quelqu'un veut être avec vous, ben, il va vous le montrer puis il va toujours prendre le temps de... Ben, prendre le temps d'être avec vous.
Et les hommes, la thérapie, c'est bien. Merci.
En fait, je vais régénéraliser tout le monde. Prenez un petit deux puis allez en thérapie. Guérissez votre enfant intérieur. C'est la meilleure chose qu'on peut faire pour avoir une bonne société guérie puis saine et qui s'aime et qui ne se manque pas de respect comme présentement. C'est pas mal ça qui se passe dans la société. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que tout le monde a besoin d'un bon petit thé camomille puis d'une bonne thérapie.
S'il vous plaît!
Nous, aujourd'hui, par contre, on boit pas une tisane camomille. Qu'est-ce qu'on boit, nous?
Avant que je dise la recette, je veux juste dire que Léo est encore accroché sur le genou à Jess. Moi, je venais ici très excitée de me faire coller par le chat pendant qu'on allait record, mais non, c'est pas moi qui ai l'élu de la journée, malheureusement. Donc, aujourd'hui, je sais pas si vous êtes comme nous et vous aimez ça, la Twisted Tea ou le thé glacé alcoolisé, en fait, de n'importe quelle marque, mais moi, je suis une grande fan, Jess aussi. Aujourd'hui, on vous apporte le thé glacé Kepler. Vous allez aimer ça, ça a seulement deux ingrédients si on exclut la glace. Donc, dans un verre, vous allez mettre de la glace, vous allez remplir votre verre environ aux trois quarts de thé glacé au pêche et vous allez ajouter du gin Kepler pêche et poire. Vous y allez comme vous voulez, 1 once, 2 onces, tout dépendant si on est lundi ou vendredi. That's it, that's all, swingez ça ensemble dans le verre. Vous avez votre drink.
Oh, c'est simple que ça, ma bonne chum. Pendant que t'étais en train de donner la recette du cocktail, je me suis d'ailleurs fait croquer. Il est cute pendant qu'il me lacère le genou. Toi, t'es juste la bonne partie où il est mignon, mais moi, ça fait mal. Puis ce qui est assez cocasse aussi, c'est que il a comme pogné un buzz, puis là, il regarde l'ordinateur avec les ondes qu'on enregistre, puis il est vraiment fasciné. Je sais pas si il comprend que c'est nos voix qui créent les ondes, c'est sûr que non, mais en tout cas, il a été fasciné pendant quelques instants. Donc, sans plus attendre, parce que vous n'êtes pas ici pour entendre parler de Léo, même si tout le monde l'apprécie, ben moi, sérieux, je trouve que c'est assez bon. Deux ingrédients, tellement simple. Je donne un 9,5 sur 10, tout simplement, à cause de tout ça pris en considération.
Moi aussi, 9 sur 10, je suis une grande fan des gin Kepler, c'est une de mes sortes de gin préférées. Et je trouve que c'est le genre de recette que tu peux facilement mettre dans un pichet. Puis, tu sais, quand il fait chaud l'été, un petit 35 degrés en plein mois de juillet à Montréal, là, sur ta petite terrasse à côté de la construction. Je trouve que ça se fait bien quand tu reçois du monde. C'est simple, c'est super bon, c'est rafraîchissant. 9 sur 10, note finale.
Cheers!
Chin, chin. Donc, Jess, De quoi tu me parles aujourd'hui?
Ouh là là! J'aimerais ça dire qu'aujourd'hui, je te parle d'une histoire d'arc-en-ciel et de licorne, mais on est à crème et cocktail, à tâche statique, avec la broche, ma bonne chum. Les récents événements qui ont mobilisé l'actualité pendant plusieurs semaines ont mis une chose en lumière, l'importance du secteur public dans notre société. Pour ceux qui savent pas trop de quoi je parle, dans les derniers mois, au Québec, c'est l'entièreté du secteur public qui a négocié avec le gouvernement de la CAQ pour obtenir des meilleures conditions de travail. Entre autres, il y a des syndicats d'enseignants tels que la FAE qui sont entrés en grève générale, nous démontrant une fois de plus que, ben, sans enseignement, une société, c'est pas grand-chose. Plus précisément, sans les enseignants. Est-ce qu'on prend bien le temps, des fois, en tant que société, de souligner l'importance cruciale derrière la profession d'enseignant? Sincèrement, moi, je pense qu'on le fait pas assez. Et vous avez été des milliers à déambuler dans les rues du Québec pour le crier haut et fort. Moi, personnellement, je dis souvent à Noémie combien elle me fascine, combien je respecte ce qu'elle fait dans la vie parce que, ben, travailler dans le domaine de la santé, selon moi, c'est un des plus gros sacrifices humains qui peut exister. Et le même principe s'applique pour vous, chers enseignants. De mes yeux à moi, vous êtes des héros, même si on vous le dit pas assez souvent, c'est grâce à mon professeur de français que j'ai découvert la lecture, c'est grâce à mon enseignant de littérature que j'ai trouvé ma voie, que j'ai trouvé ce que je voulais faire dans la vie. Je pourrais littéralement continuer comme ça pendant vraiment longtemps, l'impact que certains enseignants peuvent avoir sur notre développement, notre vie, notre carrière, notre personne. J'espère vraiment que tous les enseignants à l'écoute vont prendre un moment pour se donner une bonne petite tape dans le dos parce que vous faites toute la différence. Parlant de faire la différence, Colleen Ritzer, c'était l'une des enseignantes qui donnait envie d'écouter, d'apprendre, de se dépasser, et sa vie va brutalement et injustement avoir été enlevée par l'un de ses étudiants. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont NBC News, AllThatIsInteresting.com, CNN, Medium.com, Mass.gov, New York Post, WBUR.org, des images qui ont été capturées par les caméras de sécurité disponibles sur YouTube, Reddit et sur TikTok. Colleen Ritzer voit le jour le 13 mai 1989, faisant donc d'elle un taureau. Elle grandit dans le Massachusetts aux États-Unis et de son plus jeune âge, elle va démontrer de grands signes d'altruisme. C'est une personne extrêmement généreuse, douce et qui désire toujours aider quiconque en a besoin. C'est un enfant extrêmement serviable et vraiment facile à élever. Depuis le premier jour de sa vie jusqu'au dernier, Colleen Ritzer, elle a été décrite comme un rayon de soleil, rien de moins. C'est lorsqu'elle commence la garderie, alors qu'elle a juste 3 ans, qu'elle va réaliser qu'elle adore aider ses enseignantes et elle le fait très souvent. Au fil des années, elle va développer une passion pour les mathématiques. Ouvre la citation. Parce que les mathématiques sont pareilles partout dans le monde, les maths peuvent servir de langage universel. Fin de la citation. Cette citation, je l'ai tirée du site mathnasium.com et je trouve que ça décrit parfaitement l'une des raisons pour lesquelles Colleen Ritzer, elle était autant fascinée par les mathématiques. En plus d'être complètement passionnée par ce langage universel, ben, elle était vraiment douée. Sa passion pour l'humain, les mathématiques et son altruisme n'ont fait qu'augmenter au fil des années et tout au long de sa jeunesse, Colleen, elle a caressé le rêve de devenir professeure. Lorsqu'elle va réussir ses études secondaires haut la main, elle va s'inscrire à l'université en enseignement et elle va tout de suite être admise. Évidemment, Colleen, elle a un seul désir et un seul, transmettre son amour des mathématiques aux futures générations. Elle va surprendre absolument personne lorsqu'elle va devenir enseignante de mathématiques au secondaire. C'était comme écrit dans le ciel. En plus d'être passionnée par les nombres, par les chiffres, Colleen, elle adore regarder des sitcoms, des films de Noël. En décembre 2013, elle va publier sur X, anciennement Twitter, note du dimanche, Home Alone, c'est le meilleur film de Noël qui existe. Parlant de sa page Twitter, c'est entre autres grâce à ses publications qu'on a été capable d'en apprendre un peu plus sur la merveilleuse personne qui était Colleen Ritzer. Parce que, bien évidemment, les moteurs de recherche proposent principalement du contenu axé sur son meurtrier. Ça, on va y revenir plus tard. Sa description sur ses réseaux sociaux va comme suit. Professeur de maths qui s'excite un peu trop souvent d'enseigner sa matière. Via ses publications, il est clair que Colleen, c'est une personne extrêmement sensible aux autres, et je le redis, là, qui est dotée d'une générosité sans nom. Son mantra, ouvre la citation, « Tous les jours ne sont peut-être pas des bonnes journées, mais il y a du bon dans chaque jour. Peu importe ce qui t'arrive, sois bon avec les autres. Être gentil avec autrui est un bel héritage à laisser derrière soi. » Fin de la citation. Chaque année, à l'anniversaire horrible du 11 septembre, elle publie une note à l'intention des victimes. Je pense toujours aux innocentes victimes du 9/11 et aux proches des victimes qui vivent encore et toujours dans leur lumière. Après la tragique tuerie de Sandy Hook au Connecticut en décembre 2012, elle écrit « Quelle tragédie dévastatrice et inimaginable au Connecticut. Je vous en prie, gardez ces enfants innocents, leurs enseignants et leurs familles dans vos pensées. Pas que de publier sur nos réseaux sociaux pour exprimer notre sympathie fait automatiquement de nous une bonne personne, mais Colleen, elle le faisait de bon cœur, par réelle compassion, là, pas juste pour suivre une vague. Colleen, c'était juste une vraie bonne personne empathique. Parlant de bon cœur, Colleen, c'était le genre d'enseignante qui se décourageait jamais. Explication après explication, elle abandonnait jamais un étudiant en difficulté. C'était du genre à toujours accepter de faire du temps supplémentaire, de rester durant le dîner ou après les classes pour aider des élèves en échec. Elle se déplaçait même des fois à la fin de semaine, là, juste pour offrir une meilleure chance à ses étudiants et évidemment pour tenter de transmettre sa passion pour les mathématiques. Un de ses élèves a dit aux médias plus tard combien c'était exactement le genre d'enseignante qui donnait envie d'aller étudier les maths, qui donnait envie d'aller en classe. C'était le genre d'enseignante qui marque positivement la vie de ses étudiants, même pour ceux pour qui il est plus ardu d'apprendre. Colleen Ritzer, c'est juste un humain soleil qui incarne la douceur. C'est un professeur patient qui n'abandonne jamais ses élèves. Et justement, parlant d'élèves en difficulté, Philip Chisholm voit le jour le 21 janvier 1999, faisant donc de lui un Verseau. Il grandit au Tennessee et il a une enfance assez mouvementée au niveau familial. Ses parents vont se séparer à la lumière d'un divorce extrêmement houleux. Philip va déménager avec sa mère au Massachusetts. C'est un enfant extrêmement introverti, assez distant et qui peine à se faire des amis. Il a toujours le nez dans ses dessins, malgré le fait qu'il est assez talentueux, ça reste que ben il passe beaucoup plus de temps à dessiner qu'à socialiser. Il est également assez doué au soccer, le football pour les Français, à défaut d'être assez mauvais dans ses études. Principalement, Philip a beaucoup de difficultés avec ses cours de maths. Lorsqu'il était au Tennessee, par contre, il était reconnu comme un enfant vraiment moins distant que celui qui est devenu au Massachusetts. Son coach de soccer se rappelle combien il était poli, gentil et combien c'était facile pour Philip de se lier d'amitié avec ses coéquipiers. Visiblement, le tout a radicalement changé au même moment où de grands changements sont survenus dans la vie de Philip. Est-ce qu'il était toujours aussi mauvais ou est-ce qu'il l'est devenu? On va toujours se poser la question. Le mardi 22 octobre 2013, Colleen vit une journée normale à faire ce qui la passionne le plus, enseigner. Durant la classe du matin, elle remarque qu'un de ses étudiants semble assez occupé à faire autre chose que des mathématiques. Elle va s'approcher de lui et remarquer que l'élève en question est effectivement en train de dessiner. Elle va d'abord complimenter l'élève sur son talent, puis elle va lui proposer de venir en période de récupération après les cours pour pouvoir rattraper le retard. Philip Chisholm accepte. Ce que Colleen ne sait pas, c'est que ce matin-là, Chisholm est arrivé à l'école avec deux gros sacs qui a rapidement foncé dans son casier et dans ses sacs, il y avait un exacto, plusieurs vêtements, un masque et des gants. Lorsque Colleen Ritzer quitte la salle de classe pour aller à la salle de bain, elle ne se doute absolument pas qu'elle est en train de vivre ses derniers instants. Il est 14h54 et à peine quelques secondes après sa sortie de classe, on peut apercevoir clairement sur les caméras de surveillance un Philip Chisholm vêtu d'un jeans bleu foncé et d'une veste à capuche bleue comme électrique. Il est âgé de seulement 14 ans et il regarde dans la direction de Colleen Ritzer. Il rebrousse chemin vers la classe pour n'en ressortir que quelques secondes plus tard et la capuche est maintenant bien installée sur sa tête qui garde bien penchée pour probablement ne pas se faire reconnaître. Sur une autre caméra de surveillance, on peut le voir alors de dos en train de sortir de ses poches une paire de gants en latex blanc. Il les enfile, puis il suit Colleen dans la salle de bain. Il va alors pointer son exacto sur le cou de l'enseignante et il va lui ordonner de lui donner son iPhone, son portefeuille, en plus de ses petites culottes. Il va la violer et la poignarder avec le même exacto 16 fois. À un certain moment durant l'attaque, il y a une étudiante qui va entrer dans la salle de bain pour se soulager, mais elle va ressortir que quelques secondes plus tard parce qu'elle va réaliser qu'il y a des vêtements qui jonchent le sol et elle va se dire que ben il y a une personne qui doit être en train de se changer. Elle va donc leur laisser l'intimité dont ils ont besoin pour se faire. Elle va laisser sans savoir Colleen Ritzer à son sort et Colleen n'a que 24 ans. C'est seulement 10 minutes après être initialement entré dans la salle de bain que Philip Chisholm va ressortir. Il a toujours sa capuche bien positionnée sur sa tête et ses gants blancs sont maintenant complètement rouge. Sincèrement, c'est des images assez difficiles à voir, là, surtout sachant qu'il s'agit du sang de Colleen Ritzer. Il a été capable de violer et de poignarder son enseignante à 16 reprises en 10 minutes. Chisholm va ensuite sortir de l'école avant d'y entrer de nouveau, mais maintenant il est vêtu du même jeans, mais il a un chandail blanc avec des motifs et il est 15h09 à ce moment-là. 2 minutes plus tard, il va ressortir de la classe avec son sac à dos, ce qui semble être comme une boîte à lunch dans sa main et dans son autre bras, il tient un autre sac à dos. Sur sa tête, il y a un chandail à capuche rouge qui pendouille grossièrement, donc il a comme pas enfilé le chandail, il a juste vraiment accroché le chandail avec la capuche sur sa tête. Il va aller déposer ses sacs dans son casier avant de prendre une grosse poubelle de recyclage bleue et évidemment, ben, le bac de recyclage est vide à ce moment-là. Il va le tirer et retourner jusqu'aux toilettes et il est maintenant 15h16. Quelques minutes plus tard, Chisholm quitte la salle de bain et il est désormais vêtu du même chandail blanc et son masque de ski recouvre une bonne partie de son visage. Il traîne toujours derrière lui le bac de recyclage, sauf que le bac semble vraiment plus lourd. Il se dirige vers l'ascenseur, il prend l'ascenseur et il se dirige jusqu'à l'extérieur avec le bac. Je suis sincèrement assez surprise que l'accès aux ascenseurs soit pour tous les élèves dans cette école. Moi, je me souviens que à mon école, les élèves avaient besoin d'un billet du médecin ou comme une condition apparente pour avoir l'espèce de passe-droit de s'abstenir de prendre les marches. Je me souviens aussi que si mes camarades de classe m'avaient vu marcher dans l'école avec un bac de recyclage et une capuche de ski sur le visage, ils m'auraient clairement posé des questions.
Vous aviez un ascenseur? Nous, on n'avait pas d'ascenseur. On marchait.
On en avait une pour les personnes qui avaient, par exemple, une chaise roulante ou des fois, tu sais, je me souviens, une de mes amies s'était brisée la jambe ou la cheville ou je sais plus trop, puis elle était en béquille. Comment tu veux monter les marches à ce moment-là, il n'y a personne qui va te porter.
C'est vrai, on avait comme une petite... C'était pas une ascenseur telle que, mais c'était vraiment une petite école, on était 500 élèves, fait que c'est sûrement pour ça. Là, toi, tu devais avoir une plus grosse école secondaire que moi.
On était comme 800 élèves, c'est sensiblement une assez petite école aussi, mais comme tu sais, c'était pas un ascenseur, comme tu dis, c'était plus style Titanic, là.
OK, ouais, je comprends, moi aussi, c'était ça. Puis moi aussi, si les gens m'avaient vu transporter, surtout à cette heure-là, là, il est quand même encore assez tôt, là, c'est pas comme si c'était genre 19h. Les gens, ils auraient fait « qu'est-ce que tu calisses? Qu'est-ce que tu fais? »
Exactement. Bref, on n'essaie pas de pointer du doigt personne. On fait juste souligner que nous, notre situation d'école secondaire nous aurait juste absolument pas permis de s'en sortir aussi facilement et de se rendre aussi loin avec le corps de quelqu'un qui aurait été assassiné, tout simplement. On est complètement consciente que Philippe, c'est un élève extrêmement introverti. Ça se passe aux États-Unis, c'est complètement différent d'ici. Et donc, il a réussi à passer inaperçu, mais on blâme absolument pas ni le personnel de l'école, ni les amis ou les camarades de classe. La seule personne à blâmer, c'est bien évidemment Philippe Chisholm. Alors que Philip Chisholm se déplace avec ce qu'il croit être le corps de Colleen Ritzer dans le bac de recyclage, il va commencer à se déplacer vers un petit boisé tout près de l'école. Ce qu'il ne sait pas, c'est que tout porte à croire qu'au moment où elle est entassée dans le bac, ben Colleen, elle est toujours vivante, en train de se battre et en train de s'accrocher à la vie. Il dit aussi qu'elle aurait probablement survécu. Aurait-elle été trouvée par un autre élève avant le retour de Chisholm dans les toilettes? Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il est cru qu'elle a rendu l'âme sensiblement peu de temps après avoir été entassée dans le bac. Détail assez graphique à venir, mais aussitôt que Philip Chisholm arrive dans le boisé, il va sortir le corps de Colleen de sa prison de plastique avant de l'agresser de nouveau, lui trancher la gorge, puis il va violer le corps post-mortem avec une branche. Il va ensuite tenter de camoufler la dépouille avec des brindilles, des feuilles, sans réel succès, mais sans s'en soucier plus que ça, il va quitter les lieux. Lorsqu'il retourne à l'intérieur de l'école vers 16h, ses pantalons sont littéralement couverts de sang. Il se dirige vers une salle de bain individuelle et va en sortir 4 minutes plus tard vêtu de shorts et d'un chandail noir. Quelques minutes plus tard, les caméras de surveillance vont le capter en train de marcher vers la salle de bain dans laquelle il a assassiné Colleen Ritzer. Il va y entrer pour quelques minutes avant d'en ressortir et de quitter l'établissement. Il ne va pas rentrer à la maison et sa mère ne va pas attendre ni une ni deux. Elle va téléphoner le directeur et les services d'urgence pour déclarer la disparition de son fils et il est 18h30 à ce moment-là. À 21h, le directeur de l'école Danvers, Sue Ambrosavitch, va envoyer un courriel à tous les employés de l'établissement scolaire afin de déclarer la disparition de Philip Chisholm et va informer le personnel que... Philippe a vraisemblablement disparu après avoir quitté le périmètre de l'école. C'est à la réception de ce courriel qu'une des enseignantes de l'école, qui était assez proche de Colleen, qui va contacter le directeur pour informer celui-ci que, ben, elle aussi, elle manque à l'appel. Ça va être les parents de Colleen eux-mêmes qui vont avoir contacté l'enseignante pour informer qu'elle n'était pas rentrée à la maison. Et c'est à ce moment-là que le directeur réalise que la voiture de Colleen, elle est toujours garée dans le stationnement. Vers 11h, on déclare officiellement la disparition de Colleen Ritzer. Son téléphone est rapidement localisé et ça confirme aux autorités que l'enseignante ne semble pas avoir quitté l'école, ou du moins pas avec son téléphone ni avec sa voiture. En parallèle, dans une ville non loin de là, il y a un patrouilleur qui interpelle un jeune homme qui marche étrangement sur le bord de la rue. Et c'est Philip Chisholm. Une recherche rapide va démontrer à l'agent que Chisholm est armé. Il va trouver l'exacto ensanglanté dans son sac à dos, en plus des cartes de crédit de Colleen, son permis de conduire et sa paire de petites culottes vertes. Lorsqu'interrogé sur la provenance du sang, Chisholm va répondre « la fille ». Suspect, l'agent de police va demander à Philip Chisholm d'où proviennent les cartes et les petites culottes, ce à quoi il va répondre qu'il les a trouvées dans une station-service. Et alors que le policier ne lâche pas le morceau, qui continue de questionner l'adolescent, il va répondre qu'il les a volés dans l'auto de Colleen Ritzer et c'est tout ce qu'il fallait à l'agent pour lui passer les menottes et le mettre en état d'arrestation. On retrouve le corps mutilé de Colleen Ritzer dans le boisé le lendemain aux petites heures. Le bac est retrouvé à quelques 20 mètres de son cadavre et sur le sol sont éparpillés les gants ensanglantés de Chisholm, des vêtements ainsi qu'une note disant « Je vous déteste tous ». Les policiers doivent eux-mêmes retirer la branche insérée dans l'intimité de Colleen Ritzer. Entre les images captées sur les caméras de surveillance, l'arme du crime retrouvée sur la scène et le corps de Colleen, Philip Chisholm a peu de chances de prouver son innocence. Littéralement, tous les aspects sont là pour pointer du doigt le meurtrier. Et il va même pas tenter de prouver sa dite innocence. On joue la carte du trouble mental pour essayer de sauver Philip Chisholm de la prison à vie et surtout pour lui éviter d'être jugé en adulte, mais avec un crime aussi calculé, aussi violent. La justice n'a d'autre choix que de traiter Philip Chisholm comme le monstre tordu qu'il est. On l'accuse de meurtre au premier degré et de viol et de vol armé. Il croupit presque 3 ans derrière les barreaux dans l'attente de son procès qui va prendre place au début de l'année 2016. David Lowy, le juge de la Cour suprême de Salem, a qualifié le meurtre de « brutal et insensé » et en regardant Philip Chisholm droit dans les yeux, il va lui avoir dit « Colleen Ritzer a vécu sa vie en tant qu'héroïne silencieuse ». Les vagues déferlantes de cette tragédie ne diminueront jamais. Lors du procès, tous les proches de Colleen se sont vêtus de rose. C'était sa couleur préférée. Comme je viens brièvement de le mentionner, la défense de Chisholm va tenter de plaider l'aliénation mentale en affirmant que celui-ci entendait des voix au moment du meurtre de Colleen. Ils vont appeler à la barre les témoignages des anciens camarades de classe et des coéquipiers de Chisholm qui sont tous très surpris de la tournure des événements, mais ce fut loin d'être suffisant pour convaincre le juge Lowy qui va déclarer Philip Chisholm coupable le 26 février 2016 et lui donner une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans d'incarcération. La famille de Colleen, quoique satisfaite de voir justice être rendue, reste assez furieuse. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour suprême a stipulé en décembre 2013 que les mineurs coupables de crimes et jugés en adultes ne pourraient recevoir une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En gros, la loi a été changée seulement un mois après le décès de Colleen Ritzer, et la mère de Colleen est catégorique, le Philip Chisholm ne devrait jamais avoir droit à la liberté, ni même avoir droit de la réclamer. Ouvre la station, il est le mal à l'état pur et le mal ne peut jamais être réhabilité. Fin de la station. Parlant de la mère de Colleen, la mort de sa fille l'a complètement brisée. Ouvre la station, je dois m'isoler de ceux que j'aime, prétendre que je suis heureuse, c'est trop difficile. Fin de la station. Son père, évidemment, ne se porte pas mieux. Tragiquement, il se blâme pour le meurtre violent et graphique de sa fille. Ouvre la station, je n'ai pas protégé Colleen. Le rôle d'un père est de réparer ce qui est brisé. Je donnerais tout en mon pouvoir pour être capable de réparer ceci pour Colleen. Fin de la station. N'allez pas penser que les proches de Colleen, ce sont les seuls à être dévastés. On le dit, on le redit, les victimes d'un crime sont toujours bien, bien plus nombreuses qu'on peut le penser. La mère de Philippe Chézim est tout autant brisée, honteuse, elle se sent presque imposteur dans sa peine, elle pleure en douceur et en silence lorsque son fils reçoit sa sentence et elle dit aux journalistes « Les mots ne peuvent pas décrire la quantité de chagrin et de douleur qui ont été ressentis dans les deux dernières années et demie. Par contre, il n'y a personne qui a plus souffert que la famille Ritzer. Ma plus grande estime, mes plus grandes prières et mon humble respect les accompagnent aujourd'hui alors qu'ils poursuivent leur chemin vers la guérison. » Fin de la citation. Philippe Chézim purge aujourd'hui sa peine au Sousa Baranowski Correctional Center à Shirley, au Massachusetts. Il y a un GoFundMe qui a été ouvert afin d'aider la famille à traverser les épreuves financières reliées à la perte de Colleen et le GoFundMe est toujours actif, donc je vous l'ai laissé dans le lien de la description de l'épisode et aussi il va être disponible dans nos highlights Instagram et la famille de Colleen a également instauré le Colleen E. Ritzer Memorial Scholarship pour aider les étudiants qui veulent entamer des études supérieures pour devenir enseignants afin d'honorer la mémoire de Colleen, son désir d'aider et sa passion d'enseigner. Colleen Ritzer était, comme le juge l'a si bien dit, une vraie héroïne. Malheureusement, la vie, c'est pas un conte de fées ni un film Marvel. Plus souvent qu'autrement, le héros perd la vie des mains d'un monstre. Et le cas tragique d'aujourd'hui n'en fait pas exception.
Mon Dieu, merci Jess pour un épisode qui, comme d'habitude, si bien écrit, si bien monté, la phrase de la mère de Colleen que le mal ne peut pas être réhabilité, ça m'a donné des frissons. Puis c'est vrai, moi qui suis fan numéro un de la réhabilitation, il y a certains cas qui ne peuvent juste pas être réhabilités. Puis je pense que c'est vraiment important qu'on puisse être conscient que ça va arriver, que c'est normal. Il y a des gens que c'est juste une cause perdue. J'aurais tellement aimé ça avoir une professeure comme Colleen quand j'étais au secondaire en mathématiques. D'après moi, si j'avais eu cette femme-là, j'aurais sûrement eu mes maths de secondaire 5. Je pense que c'est l'important, c'est vraiment de se rappeler d'elle comme ça et non pour ce qui est arrivé. Puis donner surtout une lumière sur la personne qu'elle était. Puis d'aller faire des dons, si vous pouvez, pour le GoFundMe. Ouais, ça, c'est vraiment une histoire triste.
Ouais, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est vraiment... Il n'y a pas de mots, en fait, pour décrire à quel point c'est tragique, à quel point c'était juste une belle âme qui voulait aider, puis que son désir d'aider va, au final, lui avoir coûté sa vie. Puis, ultimement, je pense que Philippe Chézim, à 14 ans, d'avoir fait ce meurtre-là, d'avoir littéralement changé de vêtements autant de fois pour essayer comme de s'en sortir, après d'avoir inséré un bâton dans... Non, pour vrai, je suis d'accord avec la mère de Colleen. Je ne crois pas non plus que cette personne-là devrait être relâchée. Je crois cependant qu'elle devrait être accompagnée pour canaliser toute la rage inutile qui clairement est à l'intérieur de cet humain-là, mais comme tu dis, des fois, il faut savoir mettre la limite entre quelqu'un qui peut être réhabilité et quelqu'un qui ne le peut pas. Parlant de réhabilitation, j'imagine que tu vas me parler de quelqu'un de génial, avec un grand cœur et qui mérite tout l'amour du monde la semaine prochaine, right?
Je veux juste dire, pendant qu'on est très sérieuse, Léo fait juste se licher l'anus, comme vraiment intensément. Si vous l'entendez, si vous entendez des petits bruits à l'écoute, bien c'est Léo qui se liche. C'est un petit peu spécial comme moment en ce moment. Malheureusement non, la semaine prochaine, je vais pas vous parler de quelqu'un qui a un grand cœur en or, loin de là. Je vais en fait vous parler d'un des plus gros problèmes qu'il y a aux États-Unis, c'est la crise des opioïdes et toutes les conséquences que ça apporte. Et malheureusement, les enfants sont des victimes collatérales de ce fléau-là. Donc revenez la semaine prochaine. J'arrête pas de voler ta partie, je sais pas pourquoi je fais ça.
C'est tellement pas grave, après je sais plus comment la reprendre, fait qu'on va y aller de même. On se revoit la semaine prochaine. Ah ben tu vois, je suis quand même pas pire. Attends, ça marche plus. J'ai les jinx. On se revoit la semaine prochaine. Ah!
Creamy cocktail.
Cheers, guys!
Chin, chin!